Yann. La pluie, soulevée par le vent, forme une vague plus qu'une cascade. Elle trempe le t-shirt de Yann avant même qu'il ait atteint le Tacoma garé dans l'allée de gravier. En contournant la terrasse du soleil redouté, faiblement éclairée par un réverbère noyé, il ne peut s'empêcher de jeter un regard en contrebas, en direction du champ d'où il a vu disparaître sa femme, au galop sur Ava Enui. Dans la nuit mouillée, il croit voir des ombres s'activer, deux silhouettes frêles, sans doute celles de Poe et Moana, ainsi que celles d'un double poney. Un seul. Il n'a pas le temps de s'attarder, de se demander ce que fabriquent ces gamines en pleine nuit sous l'averse. Il fait clignoter l'ouverture automatique du pick-up et s'engouffre à l'intérieur. Les phares balayent les traits de pluie. Les essuie-glaces repoussent des rigoles d'eau. Il démarre sans même attacher sa ceinture. La buée, presque instantanément, l'empêche de voir quoi que ce soit de la descente vers Atuona. Il l'essuie d'un revers de main rageur, ce qui empire encore la visibilité. Il a l'impression d'être enfermé dans une cage de verre fumé. Son doigt appuie sur le baisse-vitre électrique alors que son pied accélère encore. Tant pis. Des bourrasques d'eau s'engouffrent dans l'habitacle. Le vent fait voler son t-shirt, lui fouette la peau. Il s'en fiche, penche au contraire son visage, éclat de pluie pleine face, pour scruter le moindre repère masqué par le verre embué du pare-brise et des autres portières. Il entre dans Atuona. Piégé par les maisons, à ras-de-vallée, le vent se fait moins violent. Les essuie-glaces trouvent leur rythme, gagnent en efficacité, semblent sortir vainqueurs de leur combat contre l'armée de gouttes kamikazes. Après l'ancienne gendarmerie, à hauteur du tatoueur, Yann braque brusquement. Il sent les pneus aquaplaner sur quelques mètres. Une rivière éphémère a remplacé la route bitumée de la vallée. Il contrebraque. Les pneus s'allient aux essuie-glaces pour triompher de l'averse tropicale. La route s'élève, de plus en plus inclinée. Il devine des ombres de bananiers se resserrer au-dessus de lui, au fur et à mesure que la route rétrécit, pour n'être plus bientôt qu'une piste de terre boueuse dont chaque mare peut masquer un puits. Les branches des arbres paraissent s'accrocher les unes aux autres de chaque côté du chemin pour ne pas être arrachées. Elles le protègent momentanément de la pluie. La visibilité est un peu meilleure, ce qui ne rassure pas Yann. Le chemin qui surgit devant lui grimpe en pente raide. Il est impraticable en voiture. Un cul-de-sac. Son premier réflexe est de regarder le compteur kilométrique. 1,5 km depuis le soleil redouté. Il lui reste à peine 500 mètres à parcourir, même s'il ignore l'ampleur du dénivelé. Il n'hésite pas, ne prend pas le temps de fermer la vitre de la portière. Les sièges sécheront, comme tout ici, demain, avant que la pluie rancunière se venge et retombe. Les phares éclairent une centaine de mètres devant lui. Il laisse le moteur tourner. Ce sera toujours ça de gagner. Un spot improvisé. Il finira le reste du chemin à la lueur de la torche de son portable. Ses sandales pèsent une tonne après quelques pas. Boue et trou. Yann tente tout de même de regarder où il pose les pieds. Repère distinctement, dans la terre gorgée d'eau, des traces de fer à cheval. Au moins, il ne s'est pas perdu. Il ne trouvera personne pour lui indiquer le chemin, mais il n'y a qu'une seule route. Il a la sensation d'avoir marché à peine 5 minutes, d'avoir gravi une pente moins raide que celle du soleil redouté, lorsqu'il aperçoit une clairière. Son téléphone éclaire un vieil écriteau de bois. Vieux cimetière de TIVTT.
Farain !
Hurle Yann.
Farain !
Le rayon de sa torche balaye un site terrifiant. Des pierres tombales en tuf couleur sang sont surveillées par de petits tiquis rouges luisants. Chaque pierre semble gravée de motifs étranges, comme autant de marquisiens tatoués, puis pétrifiés. Des croix lépreuses s'agitent sous la pluie. Chaque goutte leur arrache de nouveaux points de rouille.
Farain ! Farain !
Il se retourne, cherche ailleurs, contourne les tombes qu'il distingue mal des rochers qui ont roulé de la montagne jusqu'ici. Un énorme tronc d'arbre a été sculpté devant lui.
Farain ! C'est moi, Yann !
2 kilomètres plus bas, plein sud, il aperçoit les lueurs du village d'Atuona et imagine les quelques marquisiens veillant chez eux devant la télévision, barricadés, protégés des colères et des morsures de la nature. Elle se venge sur Yann. L'eau ruisselle jusque dans son pantalon, coule en rivière dans son dos, l'inonde au plus profond. Le vent pousse les gouttes à l'horizontale. Elle fusille le gendarme comme autant de balles.
Fin !
Yann a entendu un hennissement. Il braque sa torche sur sa gauche, un peu plus loin dans la forêt. Ava Enui attend là, stoïque, bravant les éléments en se protégeant autant qu'il le peut sous les feuilles d'un banyan géant. mâchonnant l'herbe mouillée sous ses pieds. Le gendarme s'approche du double poney, tout en tentant de repousser un entêtant pressentiment. Tout lui revient. La voix de Mahima, le testament sur le lit de Martine, dans le bungalow Ouapo. Ta femme est la prochaine. La lettre de menace envoyée par Farain à Pierre-Yves François. D'une façon ou d'une autre, c'est moi qui écrirai le mot fin. Ces derniers mots, il y a quelques minutes. J'ai retrouvé la piste de Metani Kwaki, plus que la piste même. Je l'ai retrouvé, lui. Le rayon de lumière de son téléphone fouille l'obscurité, éclairant tour à tour les manguiers, les pamplemoussiers, avant de s'arrêter, à travers le rideau de liane du banyan, sur un empilement de feuilles de pandanus et de bambou. Un enchevêtrement trop serré, trop ordonné, pour que l'homme n'ait pas aidé les branches et racines à s'organiser. Une cabane. C'est ce que pense tout de suite Yann, une sorte de hutte parfaitement dissimulée. Est-ce que Farain s'y est réfugiée? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu? Il enjambe une tombe, s'appuie sur un tiki rouge sans s'excuser. Le seul mana qu'il ressent est celui de la peur. Une peur qui rend l'averse tropicale plus glacée qu'une pluie norvégienne. C'est bien une cabane. Ava Enoui s'est écartée de 2 mètres du banyan, dévoilant la porte de feuilles de pandanus tressées d'une petite grotte de verdure. Le cœur de Yann bat à tout rompre.
« Farain !»
crie-t-il de toutes ses forces. Aucune réponse. Le gendarme s'arrête, les deux pieds dans la mare de boue qui s'est formée au pied des arbres, mélange de terre brune et d'eau piégée par une série de pierres levées, vestiges sinistres d'anciennes sépultures. Son téléphone trempé manque de glisser de sa main. Il rétablit son équilibre en s'accrochant à l'une des lianes du banyan. Il n'a plus le temps de se poser de questions. Il extrait son pied droit de la glu ocre et le lance en avant, frappant la porte de plein fouet. Elle cède, libérant une ouverture sombre. Avant que Yann ait pu réagir, le vent s'y engouffre. La première impression du gendarme est qu'une nichée d'oiseaux s'est abritée dans la caverne de branches et s'envole d'un même mouvement à son arrivée. Des dizaines d'ailes blanches affolées. Avant de réaliser. Des feuilles de papier, par centaines peut-être, sont soulevées par les alizés et voltigent autour de lui, recouvrent les pierres tombales, coiffent les tikis, torchent la boue, s'agrippent aux croix ou disparaissent déjà plus loin vers Atuona, vers le Pacifique. Yann arrache celle qui vient de se coller à son torse trempé, la parcourt des yeux, même s'il a déjà compris. Personne n'a rien entendu cette nuit du 29 juin 2001, rue La Canale. Il faudra attendre 6h27 du matin pour que le corps d'Audrey Lemonnier, sans vie, soit. C'est le manuscrit. Terre des hommes, tueur de femmes.
On ne peut pas mourir pour des mots,
hurle Yann dans sa tête. Il se fiche de ce roman, seul compte les gens. Vivants. Il éclaire l'intérieur de la cabane. Si ses pieds n'avaient pas écrasé un tapis de feuilles blanches, s'ils avaient simplement dérapé sur la boue de terre rouge, sans doute le gendarme aurait-il perdu l'équilibre. Il se contente de chanceler. Un corps. Un corps est allongé dans la cabane. Immédiatement, Yann comprend qu'il est mort. Sa position de poupée disloquée. L'odeur portée par les alizés. Un cadavre. Yann ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Remercier le ciel ou le maudire. C'est le corps de Pierre-Yves François que sa torche éclaire. Recroquevillé dans la cabane comme un sac trop lourd qu'on a renoncé à ranger, qu'on a juste abandonné là, tassé sur lui-même, jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Pierre-Yves François ne bouge plus. Depuis longtemps. Sa peau est d'une blancheur effrayante, rendue plus blafarde encore par l'éclairage aveuglant. Seul son cou paraît plus rose, piqueté de points écarlates où le sang a coagulé, tel un tuyau percé.
« Farain !»
tente de crier encore Yann. Sa gorge ne laisse passer qu'un mince filet de voix. Sa femme n'est pas là. Le gendarme se penche, prend soin de ne rien toucher, se contente d'observer. Un hématome violacé déforme la tempe droite de l'écrivain. Une feuille solitaire est coincée sous son bras. Trop isolée pour faire partie de celle du manuscrit envolé. Quelqu'un l'a placée là pour qu'on la trouve avec le cadavre. Pour qu'on la lise. Avec une infinie précaution, Yann change son téléphone de main, puis, de la droite, tire par un coin la feuille de papier. Ses yeux se baissent, au moment même où un bref carillon sur son téléphone résonne. Un message qui s'affiche en temps réel. Un message de Farrain, c'est ce qu'il croit, avant de le lire. Jusqu'à présent, tu t'es très bien débrouillé tout seul. Continue. N'appelle pas la police. Si tu veux revoir ta femme vivante. Un message que n'importe qui a pu envoyer avec le téléphone de sa femme. Yann se balance quelques secondes, telle une quille qui hésite à tomber, puis prend appui au tronc du banyan. Les nœuds du bois, les branches aiguisées s'enfoncent dans son dos, anesthésient sa douleur, sa peur, sa colère, sa soif de vengeance et de justice. Le message s'efface d'un coup, alors que le portable se met en veille. À l'exception de la torche, toujours braquée sur la feuille blanche qu'il tient stupidement dans sa main. Ses yeux lisent malgré lui. Quelques lignes. Un nouveau testament.